Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le sénateur de Vendée et président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau.
Bienvenue Bruno Retailleau dans ce studio d'RTL.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Les syndicats ont réussi leur entrée dans la grève contre la réforme de la SNCF. C'est ce que nous disait hier Philippe Martinez, qui était l'invité de Marc-Olivier Fogiel. Ils ont effectivement gagné le point, comme dirait Mélenchon.
Les syndicats, Écoutez, ce sera une longue bataille, la bataille du rail. Ça doit durer 3 mois en grève perlée. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. On a observé une forte, évidemment, mobilisation et une forte désorganisation pour les pauvres usagers. Au moment où je vous parle, il y en a sans doute qui sont toujours dans la galère pour se rendre à leur travail.
Les usagers, d'ailleurs, ont aussi droit au respect face à des syndicats qui font tout pour gêner au maximum. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe à l'Assemblée. Et depuis le départ, le gouvernement s'appuie sur l'opinion. Est-ce que c'est une bonne stratégie ?
Une opinion, c'est toujours versatile. Et donc, la seule stratégie qu'il faut tenir lorsqu'on veut réformer le pays, c'est l'intérêt supérieur du pays. Et je pense que la réforme de la SNCF, elle est absolument évidente. J'étais président de région, j'ai été le premier président des régions à faire délibérer mon assemblée, parce que je renouvelais la convention avec la SNCF pour les TER, les transports régionaux, sur le fait que nous devions en même temps prévoir dans cette convention une ouverture à la concurrence.
Donc, cette réforme, vous la soutenez à 100%.
Je la soutiens, cette
sans
réforme.
Aucune réserve. Parce qu'on entend chez vous certains membres de Les Républicains qui disent « Oui, c'est une réforme, enfin bon, est-ce que vraiment le gouvernement veut réformer ?» Voilà,
non, mais
une
il
tentative
faut
de minimiser les efforts du gouvernement
la soutenir,
pour réformer.
Il faut la soutenir parce qu'encore une fois, on a une dégradation de la qualité du service. Ce n'est pas dû aux cheminots, c'est un système qui est en train de s'essouffler. Voilà, moi j'ai fait, et encore une fois en région, je me souviens, une ligne qui a été rénovée, donc ce n'est pas un problème d'infrastructure, près d'un train sur deux entre Nantes, Chalon, Saint-Gilles-Croix-de-Vie était touché soit par des retards, soit par des suppressions de trains parce que parfois on manquait de conducteurs, vous imaginez. Donc oui, je pense que cette réforme, elle est nécessaire.
Il faut la
simplement,
sans réserve,
le
vous
rôle,
la voterez, sans réserve.
Le rôle, je pense que je la voterai. Simplement, le rôle de l'opposition, c'est de voir si c'est bien une vraie réforme. Et il y a quelques heures, c'est-à-dire que très concrètement, il y a quelques heures, Madame Borne a déposé 16 amendements. Ces 16 amendements, par exemple, vont reprendre toutes les dérogations que le paquet ferroviaire européen avait prévues, les dérogations à la mise.
Attendez, traduisez ça. Ça veut dire quoi ?
La dérogation, le paquet ferroviaire, c'est cette directive qui ouvre à la concurrence. Bien. Et dans cette directive, il y avait des dérogations à la mise en concurrence qui avaient été prévues. Eh bien, le gouvernement...
Par exemple, pour l'Île-de-France, en tout cas, en ce qui concerne
le
calendrier.
Il y en a plusieurs, exactement. Et donc, le gouvernement a repris ce paquet de dérogations qui rendra un peu plus compliqué, qui peut repousser...
Qui peut
justement
différer l'ouverture à la concurrence dans certaines régions.
Absolument. L'ARAFER, le gendarme, justement, de la SNCF, du ferroviaire, avait fait une étude en disant, attention, ces dérogations peuvent fortement nuire à l'ouverture à la concurrence et le gouvernement les reprend, dérogations.
Il scelle le gouvernement ?
Je ne sais pas.
Il lâche du lait ?
Je ne sais pas, mais souvent avec Emmanuel Macron, on touche à beaucoup de réformes, un petit peu. Voilà, sans aller au bout. Et là, je pense que moi, je veux la soutenir, cette réforme. Franchement, pour les usagers...
Vous voulez la soutenir, mais au bout de 3 minutes, vous la soutenez un peu moins.
Mais
hein,
non, mais il faut être objectif.
Vous êtes monsieur plus, vous avez peur qu'il en fasse pas assez.
Il faut être objectif, tout simplement. Le Sénat, la semaine dernière, ça ne vous a sans doute pas échappé, nous avons voté un texte de loi pour l'ouverture à la concurrence. Voilà. C'était une PPL, aussi bien signée par des UDI, des centristes.
De loi.
Absolument, une proposition de loi. Donc non, je suis juste, il faut faire une vraie réforme. On ne va quand même pas embêter le monde et les usagers pour trop peu de choses.
Ouais, vous la voterez quand même, malgré
bien
le fait qu'effectivement, il y a ces
bien
amendements.
Sûr.
Les cheminots martèlent, qu'ils ne sont pas des privilégiés. Au contraire, leurs avantages acquis, comme l'emploi à vie, qu'on pense, à peine, disent-ils, des conditions de travail difficiles. Vous êtes d'accord, ce ne sont pas des privilégiés, les cheminots ?
Je ne pense pas que leur salaire soit des salaires de privilégiés.
Est-ce que l'emploi à vie, c'est un privilège aujourd'hui ?
L'emploi à vie est, par rapport à d'autres catégories de population, un énorme avantage.
Parce que plus personne n'ose le dire maintenant. Les cheminots, pendant la droite, par exemple, pendant longtemps, a dit effectivement, les cheminots disposent de privilèges. Le statut de la fonction publique sera passé à la paille de fer, avait dit François Fillon pendant la campagne. Et puis aujourd'hui, voilà, on n'entend plus ça. Non, les cheminots...
Mais qu'il faille une évolution, y compris sur le statut, c'est naturel. Vous savez d'ailleurs qu'aujourd'hui, la SNCF
Vous n'avez pas de recruteurs de gazelle là-dessus, comme
non,
dirait encore Mélenchon.
Absolument pas. Non. Absolument pas.
Donc les cheminots doivent admettre qu'ils ne peuvent plus bénéficier de ce statut.
Bien sûr, ils ne peuvent plus bénéficier de ce statut. Il faut reconnaître en même temps que ce sont, parce que j'en connais beaucoup, puisque j'ai géré en tant que président de région donc, un réseau, et je sais, pour en avoir rencontré, qu'ils ont un vrai attachement à leur métier. C'est un esprit maison.
C'est une grève corporatiste quand même ou pas ?
C'est une grève qui vise à préserver un certain nombre d'avantages, bien sûr, mais ils veulent aussi préserver leur métier. Je pense qu'ils se trompent sans, en voulant s'accrocher à un statu quo, je le pense vraiment, mais je ne leur jette pas la pierre quand il s'agit du lien qui les unit à une entreprise qu'ils aiment beaucoup. Voilà. Simplement, si cette entreprise n'évolue pas, elle mourra. Voilà, c'est tout.
Quelle est la concession qui, pour vous, du gouvernement, aux cheminots en grève, qui constituerait pour vous une ligne rouge ?
Quelle est, pardon ?
La concession que ferait le gouvernement aux cheminots dans le contexte
c'est
de grève,
c'est de rendre la réforme inutile. Ce serait de rendre la réforme inutile.
Par quoi ?
Ben justement, par trop de dérogations sur la mise en concurrence. Écoutez, on nous a imposé la concurrence du covoiturage. Si j'ose dire, c'est pas une vraie, puisque ça ne dépend pas de la loi, mais surtout des cars Macron. Comment voulez-vous que, à côté du service ferroviaire, on nous impose une concurrence ?
Ça marche bien, les cars Macron.
Bien sûr, mais c'est plus polluant. Voilà, ça a des avantages bien sûr, mais il faut jouer à armes égales si on veut prendre une part toujours plus importante du ferroviaire, si on veut essayer de décongestionner les routes, parce que c'est moins accidentogène et que souvent c'est plus respectueux de l'environnement. Donc on ne peut pas à la fois vouloir une mise en concurrence externe sans vouloir la mise en concurrence sur justement le réseau ferroviaire.
Ce matin, Bruno Retailleau, Édouard Philippe devrait révéler en Conseil des ministres les arbitrages, on ne sait pas jusqu'où il ira dans le détail, sur la réforme de la Constitution. Alors il y a énormément de choses dans cette réforme, énormément, et ce qui attirera le plus attention, ça c'est d'ailleurs pas constitutionnel, c'est la diminution du nombre de parlementaires et la proportionnelle. Les derniers échos font état d'une baisse de 30%, d'un tiers du nombre de députés et de sénateurs. Ça vous va comme chiffre ? 30%.
Écoutez, nous on n'est pas du tout...
Un parlementaire sur trois devra se faire un rakiri, si je puis dire.
La question qu'il faut se poser la question qu'il faut se poser sur la révision constitutionnelle, c'est le pourquoi. Est-ce que c'est pour rendre les choses plus utiles aux Français ou est-ce que c'est pour les rendre plus utiles à Emmanuel Macron ? Parce que pour l'instant, le sens de cette réforme, c'est quoi ? C'est de concentrer encore plus dans les mains d'un seul homme, le président de la République, le pouvoir.
Pourquoi ? En quoi ?
Parce que
la baisse du nombre de parlementaires, vous le vouliez aussi, hein ?
Bien sûr,
encore
bien
plus
sûr.
Drastiquement
bien sûr,
d'ailleurs. Dans
mais
le
ce que
de
nous
fin.
Voulons, c'est que les efforts soient partagés. Une baisse du nombre de parlementaires, une baisse du nombre de ministres. Nous avons proposé de limiter à 20 membres du gouvernement. Il y en a un peu plus de 30 aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron, qui propose, par exemple, pour l'Europe, 15 commissaires européens pour 27 pays, n'accepterait pas, alors qu'il propose la baisse du nombre de parlementaires, une baisse du nombre de ministres ?
C'est une façon de le piéger ou ça a un sens de réduire à ce point le nombre de membres de gouvernement ?
Il y a deux limites pour nous. On dit oui à la réduction de la baisse de parlementaires.
30% oui ?
Non. Parce qu'à 30%, vous ne pouvez pas représenter notamment ce qu'on appelle la France périphérique, les territoires les plus fragiles, notamment démographie. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a une crise, il y a une fracture territoriale. Bien sûr, il faut être entre 20 ou 25%, mais 30%, ça n'est pas possible. Il faut que l'effort soit juste et partagé.
Donc Gérard Larcher, vous, le sénateur Bruno Retailleau, vous dites 30%, c'est non. Emmanuel Macron n'en veut pas.
30%, je pense que c'est trop, parce qu'on sacrifierait les territoires les plus fragiles. On a une crise territoriale en France, on ne doit pas l'élargir. Cette révision constitutionnelle, elle doit être utile. Utile vis-à-vis des territoires, utile vis-à-vis de la démocratie. Moi, ce que j'observe avec Emmanuel Macron, souvent, c'est qu'il faut faire des efforts, mais que les efforts ne sont jamais partagés. Il y a toujours un bouc émissaire. Voilà, toujours. Dans toutes ces réformes, il y a un bouc émissaire.
Ça renvoie un peu à la critique de Laurent Wauquiez, donc, qui dit que Emmanuel Macron n'a aucune empathie à l'égard de ceux qui souffrent en France. Il ne veut pas faire partager les efforts ou il les fait subir à des catégories.
C'est clair qu'il a besoin. Il est paradoxal, puisque à la fois il veut faire sauter les clivages, il est très clivant. Il est manichéen. Il a besoin.
Il est manichéen.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a le camp du bien.
Est-ce que c'est le manichéen ? Enfin, mieux que
bien
quoi,
sûr,
le
bien sûr.
Le bien et le
bien
mal.
Sûr. Il y a le camp du bien. Il y a le camp du bien et le camp du mal. Le camp du bien et le camp du mal. Quand l'autre jour, à Tours, par exemple, il s'adresse à des retraités qui l'interpellent, il dit « Mais vous vous rendez compte, les jeunes, eux, ils travaillent, vous pouvez bien faire des efforts parce que les jeunes, eux, ils travaillent et ils payent vos retraites. » En oubliant que les retraités d'aujourd'hui ont payé, évidemment, les retraites de ceux d'hier. Donc et qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et ils n'avaient pas les 35 heures. Donc à chaque fois, il y a besoin. C'est comme sur l'Europe, vous voyez. Il dit « Attention, il y aura les Européens et les nationalistes, et pourquoi pas les fascistes ? Ça veut dire quoi, ça ?
Vous êtes dans le camp des Européens, vous présentez d'ailleurs aujourd'hui une trentaine de mesures pour l'Europe, certaines sont très classiques, d'autres sont plus étonnantes, très très vite, il y en a une, vous voulez la fin des sanctions pour la Russie, c'est ce que vous écrivez, c'est pas très climax, hein, compte tenu
non,
de ce qu'ils viennent de faire à l'Europe.
Je dis simplement que moi je me suis associé au problème qu'il y a eu d'ailleurs avec la Grande-Bretagne, mais je pense qu'il faut que la Russie, on ne doit pas recréer une nouvelle guerre froide. Simplement, je pense qu'il faut une Europe qui défend les Européens. Je pense que l'Europe que va proposer Emmanuel Macron, fédérale...
Non, il dit la même chose.
Non, mais c'est faux, c'est faux.
Si, il dit aussi une Europe plus protectrice.
Mais non, il veut plus d'élargissement sur Schengen, sur le pays des Balkans. Il veut plus de dépenses, puisqu'il veut un budget avec forcément financé par des taxes et des impôts. Il faut une Europe qui protège les Européens, voilà, sur le plan migratoire, sur le plan des emplois, et il faut que l'Europe devienne enfin un vrai projet de civilisation et non pas un mécano institutionnel fédéral. C'est fondamental si on veut que l'Europe soit aimée par les Européens et par les Français, et nous allons construire cette campagne justement sur ce thème-là.
Merci Bruno Retailleau. D'ailleurs, vous avez une proposition pour finir, mais on en parlera une autre occasion. C'est une charte des valeurs judéo-chrétiennes votée par l'ensemble des pays européens. 28,
pas seulement
bientôt
27. Elisabeth Martichoux, simplement reconnaître que l'histoire des Européens, c'est l'Antiquité gréco-romaine, ouais. Bien sûr le christianisme, mais en même temps les Lumières. Donc, bien sûr, judéo-chrétiens, nous assumons totalement notre histoire et notre géographie. Notre géographie sans la Turquie aussi.
Les Européennes, c'est l'année prochaine. Merci Yves Calvi. Merci Bruno Retailleau. Merci Yves Calvi de votre patience.
Mais merci Yves Calvi. Alors, aussi. Il nous a écoutés presque religieusement. Elisabeth Martichoux pendant toute l'émission. C'est dire.
Vous voulez dire qu'il a du mérite ?
Non, j'y ai pris du plaisir. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux.